Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême avec Carbone pour parler de la boîte à musique sur le stand du Puy. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe Angoulême?
C'est Angoulême, c'est juste énorme, c'est plein de monde, c'est plein de BD, c'est plein de bulles, c'est plein de... c'est Angoulême.
Alors on peut déjà dire félicitations parce que ce qu'on disait avant off, c'est que il y a un beau succès pour la série et du coup là ça vient d'être auréolé encore une fois d'un prix sur festival et pas n'importe lequel, Angoulême, donc bravo.
Merci beaucoup, c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout, enfin voilà, on a... Après, le jour où on a su qu'on était lauréat au prix de la Ligue d'enseignement à Blois, on a appris aussi qu'on était nominé pour la sélection des écoles d'Angoulême. Donc, c'était déjà énorme. Voilà. Et puis, de savoir qu'on est lauréat et qu'on a le fauve des écoles, c'est juste... Enfin, voilà, je ne sais même pas comment le dire. Quoi, parce que là, la BD est sortie l'année dernière à Angoulême, donc il y a juste un an. Et puis ben, on revient cette année avec un tome 2 et avec un fauve des écoles. Donc voilà, c'est en tant qu'auteur, c'est juste génial. Quoi.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter cette boîte à musique?
Alors la boîte à musique, c'est en fait une boîte à musique qui appartenait à la maman de Nola et qu'elle reçoit pour ses 8 ans. Donc son papa lui offre ce cadeau qui appartenait à sa maman. Et elle va très vite découvrir que c'est pas juste une boîte à musique qui fait une jolie musique, mais c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui est à l'intérieur et quelqu'un qui l'appelle au secours. Et donc elle va trouver le moyen de rentrer dans la boîte à musique et là elle va y faire la connaissance d'Andrea qui l'appelait au secours et qui va l'entraîner dans un monde caché dans cette boîte à musique. Donc un monde que sa maman a découvert et fréquenté bien avant elle. Donc elle est juste au début de ses aventures.
Donc on peut dire qu'on a une double intention dans la série. On a le traitement du deuil à travers le décès de la maman justement de l'héroïne. Et puis comment elle se reconstruit grâce aux souvenirs et grâce à cette aventure. Et puis on a la création de tout un monde imaginaire avec pas mal de choses qui s'y passent. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un nombre de tomes qui peut être associé ou est-ce qu'au départ c'était vraiment au coup par coup en fonction de comment ça allait être ressenti?
Alors en fait c'est un projet qui est complètement à construire. C'est pas j'avais pas d'entrée l'idée d'un nombre de tomes, d'exactement ce qui se passait. Moi j'avais l'idée de cette aventure de cette petite fille qui découvre un monde en fait qui au départ n'était pas du tout merveilleux en fait. Qui était un peu notre monde en miniature en fait. Et l'éditrice et le dessinateur ont voulu qu'on essaye de tester ce côté magique, féerique. J'étais pas sûre d'être capable de le faire et puis au final c'est même plus facile que puisqu'on a moins de contraintes, on peut se permettre d'inventer des personnages extraordinaires, des gens qui ont des pouvoirs, enfin des trucs bizarres. Enfin en fait finalement c'est bien plus simple. Je me mettais des barrières toute seule et donc mon histoire est pas figée et ce que j'explique souvent en animation, en fait je suis un peu comme Nola, en fait je découvre en même temps cet univers. Je découvre Pandorian et j'ai l'impression, en fait, sans l'avoir vraiment voulu, dans le tome 1, d'avoir semé plein de petites graines. Et c'est vrai que dès la sortie du tome 1, on nous a fait des retours, on nous a posé des questions qui, nous, enfin, pour moi, n'étaient pas essentielles. C'était des prétextes. J'ai même envie de dire que Nola ait perdu sa maman. En fait, c'était un peu juste le prétexte. Sinon, elle allait devoir s'expliquer de tout ce monde-là. Donc, il valait mieux que la maman ne soit plus là. Enfin, et en fait, non, il faut que j'aille plus loin que ça. Il faut vraiment que je réponde à des questions. Donc là, on est quand même parti sur, a priori, 2x5 tomes. Avec deux cycles de 5 tomes. On verra comment ça avance. La ligne directrice est faite jusqu'au tome 7. Hein, et les intrigues secondaires se calent en fait aussi. En fonction du retour du tome 1, du tome 2, on nous a beaucoup demandé si on retrouverait l'herboriste, si on retrouverait le guérimaud, l'octopodus. Enfin voilà, on va pas tout raconter. Mais oui, il y a des personnages, on a dit, il faut les faire revenir. Donc ça se construit en même temps que les lecteurs et que que le personnage évolue. Mais par contre, il y aura une fin. Voilà, c'est tout ce qu'on a, on a demandé. Enfin, moi, en tant qu'auteur, j'ai demandé qu'il y ait spécifiquement une fin. Après, je comprends les contraintes éditoriales, économiques et commerciales. Et en fait, en tant que moi, lectrice de BD, c'est tellement frustrant de commencer une série et de jamais avoir la fin. Voilà, j'ai dit, je veux bien changer mon scénario, mais qu'il y ait une fin. Voilà.
Une fin du coup qui n'est pas, qui est à créer, c'est pas une fin que vous avez déjà établie.
Non, c'est à créer. Là, non, je ne sais pas comment ça se finit encore. Donc sûrement peut-être que dans un coin de ma tête, il y a des pistes, mais pour le moment, non, je ne sais pas comment ça se termine.
Est-ce que c'est important qu'il y ait un thème, un sujet plus grave à traiter, à réfléchir dans chaque tome, ou est-ce que c'est venu comme ça? Parce que dans le second tome, on a des problèmes de harcèlement bon, qui sont adaptés au monde de Pandorian, qui sont réels et qui trouvent une solution. Est-ce qu'à chaque fois, il y aura plus ou moins un problème avec une résolution? Alors, c'est des problèmes un peu secondaires, mais qui sont là.
C'était pas une volonté, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi mon côté d'ancienne enseignante où je sais qu'on peut se permettre de parler de tout aux enfants et qu'il faut surtout parler de tout avec les enfants. Donc sur le tome 3, voilà, on aura un peu moins de grosses problématiques, on va plus être sur la genèse, voilà, de ce monde. Mais oui, sur le tome 4, on retombe sur une problématique voilà qui a interpellé dans le premier. Pourquoi on peut pas aimer qui on veut, sur la différence et l'acceptation des autres. Voilà, ça se construit vraiment au fur et à mesure. Je ne sais pas forcément figer, dire je veux à chaque fois qu'il y ait un thème fort. On se laisse vraiment porter par les personnages et cet univers.
Est-ce qu'il y a des retours de lecteurs enfants qui vous ont surpris?
Beaucoup. En fait, on en a eu beaucoup parce que confier la boîte à musique aux jeunes lecteurs, et c'est vrai que on ne s'attendait pas à tous ces retours et c'est ça vraiment, des retours avec des questions, qu'est-ce qui s'est passé, la maman de Mola, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle va revenir, des questions. Alors, comme c'est un monde fantastique, oui, est-ce qu'elle va revenir, est-ce que dans le monde de Pandorian la maman de Mola peut revenir. Et en fait, on a senti qu'il fallait aussi y répondre. Et quand le tome 1 est sorti, Jérôme était sur le tome 2. Du coup, on a changé. Moi, j'ai changé tout un passage du tome 2 pour essayer de revenir un peu dessus. Essayer de répondre ou d'apporter quelques éléments de réponse, parce qu'on ne va pas non plus tout raconter. Après, le fait de ne pas être figé dans mon histoire, ça me permet ça m'a pas posé de problème de dire je reprends le scénario et je sens que je dois répondre. Je veux pas forcément quelque chose de super interactif avec les lecteurs, mais s'ils se posent des questions, c'est que ils cherchent des réponses, donc on se doit au moins d'essayer d'y répondre.
Est-ce qu'elle existe, cette boîte à musique? Est-ce que vous en avez une qui vous a servi d'influence?
Non, pas du tout. En fait, tout est parti d'un dessin que Jérôme avait posté sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça correspond à la dernière case de la planche 1 du premier tome, où en fait, Nola est en train de souffler ses bougies avec un monsieur, donc on suppose être son papa. En arrière-plan, on voit un cadre avec un personnage féminin. Et en fait, c'est vraiment parti de là, mais... ça m'a inspiré, une boîte à musique, c'était ce cadeau, mais finalement ce cadeau aurait peut-être pu être autre chose, un livre, ça aurait pu être plein d'autres choses, mais je sais pas pourquoi, c'était une boîte à musique et je trouve qu'elle fait une jolie mélodie, donc...
Est-ce qu'il vous arrive du coup de l'entendre, cette mélodie, hors de la création?
Alors oui, parce que forcément quand on est auteur, on vit beaucoup avec ses personnages, donc surtout quand on est vraiment dedans, ça doit être un petit peu moins quand même que Jérôme, qui lui passe des mois entiers à dessiner, donc je pense qu'il doit en rêver. Moi je travaille quand même plus rapidement, et en plus je suis sur plusieurs séries, donc ça me permet de jongler, mais c'est vrai que pour le lancement du tome 1, en fait les éditions Dupuis avaient aussi fourni aux libraires une vraie petite boîte à musique, donc qui fait une jolie mélodie. Donc c'est vrai que maintenant, forcément, on l'associe. Bah, du coup, c'est au Lac des Cygnes, donc voilà, on l'associe à cette mélodie.
Et vous cautionniez la mélodie, vous aviez choisi avec ou non, vous les aviez laissés libres et puis ça...
Ben, en fait, ils gèrent tout et ils gèrent tout très très bien, tellement merveilleusement que de toute manière tout ce qu'on nous voilà tout ce qu'on ils font autour de la boîte à musique et des autres séries, enfin voilà, c'est vraiment pour la série, donc enfin voilà, au contraire, à chaque fois c'est des super surprises voilà, de voir une boîte à musique estampillée avec voilà aux couleurs de Nola, c'était génial, donc voilà, à chaque fois c'est que des petits trucs, mais qui sont super, quoi.
C'est un monde imaginaire. Donc il y a la façon dont vous l'avez en tête, et après il y a la transcription sur le dessin. Vous êtes très directrice sur ce côté-là, ou est-ce que vous laissez un peu libre cours pour vous-même vous faire surprendre ?
Alors souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que je demande d'abord en fait à Jérôme. Je dis voilà, j'ai besoin d'un méchant, ou j'ai besoin voilà, enfin le personnage va faire ça. Comment tu le vois et en fonction de ça, où c'est un personnage, parce qu'il a quand même fait aussi beaucoup de dessins déjà voilà libres, enfin qu'il faisait avant, comme celui que j'ai vu et qui m'a inspiré la boîte à musique et qui postait sur les réseaux sociaux. Donc où je pioche en fait dans ces personnages-là, parce que s'il les a dessinés, a priori, je me doute qu'il les aime bien. Donc il y a ça, ou sinon voilà. Vraiment, je lui demande, je lui donne les caractéristiques, il me le dessine, et à partir de là, ben, du coup, je lui invente un nom, enfin, ou je lui invente voilà, d'autres choses. Donc, on s'arrange comme ça. En général, non, je suis pas. Sauf si c'est vraiment super important pour l'histoire, mais par exemple, pour les personnages, voilà, je vais juste lui dire, il me faut un méchant, voilà, comment tu le vois, et voilà, je m'arrange après. On fait un ping-pong, on communique et on échange beaucoup tous les deux. Enfin voilà, faut il va passer des mois dessus à dessiner ses personnages. Après, il va les dessiner aussi en dédicace, parce que Jérôme demande souvent qu'est-ce que tu veux que je te dessine. Donc voilà, il faut qu'il aime les dessiner. Donc voilà, on fonctionne un peu comme ça.
On parlait retour de lecteurs, vous nous avez parlé des auteurs les plus jeunes, mais du coup les gens qui viennent vous voir, c'est 50-50, jeunes et adultes, ou plutôt jeunes, ou...
On a vraiment de tout public. Alors c'est vrai qu'a priori, enfin voilà, par rapport à la couverture, on est clairement annoncé comme étant jeunesse. Mais quand on nous demande en fait quel est le public, j'ai envie de dire c'est comme Tintin quoi, c'est 707 ans, enfin c'est vraiment tout public, parce que on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens en dédicace. Alors on a été tellement surpris en fait que d'avoir beaucoup de monde qui venait pour avoir une dédicace, et donc malheureusement ils devaient patienter pour arriver jusqu'à nous, et ils avaient le temps de lire la bande dessinée, et que en fait quand ils arrivaient, on a plusieurs fois ça nous est arrivé, on nous a dit oh, en fait je voulais le mettre pour ma petite fille, mais en fait vous pouvez me le dédicacer pour moi, parce qu'en fait j'ai trouvé ça tellement joli que voilà, je le garderai à la maison et elle le lira, ou il le lira quand il viendra à la maison, enfin voilà. Donc je pense qu'on est et je pense que c'est ce qui fait aussi un peu la force de cette bande dessinée, c'est qu'on est dans un monde aussi tellement imaginaire et onirique que du coup on s'adresse à tout le monde, et on fait rêver les petits et aussi les grands enfants quoi, que nous restons.
On a parlé musique avec la boîte à musique, mais quand vous créez, alors même au-delà de la boîte à musique, est-ce que vous travaillez justement en musique, ou est-ce que vous avez besoin du silence absolu ?
Alors au début, j'arrivais à travailler n'importe où, même j'aurais été capable de travailler à Angoulême où il y a un bruit incroyable, mais maintenant j'ai besoin vraiment de me concentrer, je mets même pas de musique, enfin voilà, j'ai vraiment besoin du calme pour vraiment travailler et me concentrer.
Alors la bande dessinée, ça fait rêver tout le monde, les lecteurs, etc. Est-ce que vous auriez un conseil éventuellement à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce beau métier qu'est auteur de BD ?
Eh ben, faut s'éclater. Non, mais faut se faire plaisir, voilà. Pas se dire c'est pas, voilà, on va pas y arriver, on n'en est pas capable, voilà. Enfin, Moi, je sais pas du tout dessiner, donc a priori, pourquoi un jour j'aurais pu faire de la BD. Enfin, et finalement, j'arrive à montrer que même si on sait pas dessiner, on est capable d'être scénariste, et que sans scénariste, même si c'est moins impressionnant qu'un dessinateur, il y a pas de BD non plus. Donc faut croire en ses projets, faut s'éclater, les présenter, oser les présenter, et puis après, des fois on a des belles surprises, voilà. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas non plus. Enfin, voilà, moi la première, je viens de la jeunesse, mais c'était tellement incroyable. Enfin, me dire un jour, je serai scénariste de bande dessinée et encore plus chez Dupuis. Voilà, non, faut s'éclater et se lancer.
On va vous proposer d'emprunter une voie, d'emprunter un chemin. Vous pouvez choisir de partir soit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, soit emprunter le chemin de briques jaunes, the stairway to heaven, la highway to hell, ou partir vers l'infini et au-delà.
L'infini et au-delà, sans hésiter.
Parce que
Parce qu'en plus, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Et puis, oui, c'est ça, c'est vers l'infini et au-delà. On verra bien, mais ouais, faut essayer. Et puis, on ne sait jamais. Des fois, on arrive. Je suis sur mon petit nuage et j'y reste. Donc, ouais, ça me va bien, ouais, celui-là.
Quelque chose que vous souhaiteriez ajouter?
Bonne lecture.
Merci.